Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, il y a peu de temps, je suis allé dans le baptistère. Donc c'était mon baptême. C'était merveilleux. Je vis encore sur un nuage. Alors merci Seigneur. C'est une véritable protection pour moi. Oui. Tout ce qui m'assaillait, tout ce qui m'attaquait est loin de moi. Voilà. Et donc au niveau du sujet d'aujourd'hui, je me suis dit, c'était juste de parler d'eau. Dans la Bible, il y a une grande symbolique autour de l'eau. Et donc, je voulais faire un peu le tour. Je ne peux pas être exhaustif, hein, c'est pas possible. C'est tellement vaste. Mais donc, c'est une étude qui m'a été donnée par Daniel Sten, mais qui vient d'une étude de Haïm Aouzaman. Je le dis peut-être mal, hein, mais voilà. Donc, on parle d'eau dès l'origine. Donc, dans Genèse 1, 2, « Or, la terre n'était que solitude et chaos et ténèbres. Couvrait la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux. » Alors, comme c'est un cours biblique, mais en hébreu, c'est une initiation hébraïque, on voit ça avec en hébreu. Donc, on voit dans ces versets qu'il y a deux mots qui se ressemblent et qui parlent de la même chose. Donc, par exemple, pour abîme, on pourrait traduire ce mot par océan, par eau souterraine et abîme primordial. Et puis, pour les eaux, on peut dire les eaux primordiales, eaux de pluie, eaux de source, eaux de fleuve. Mais ces deux mots sont précédés par un autre mot qui est un mot qui une articulation, quoi, on va dire un sens construit, et qui veut dire qui planait. Et qui planait. Alors ce verbe, il est conjugué à une forme très intense. C'est un peu particulier chez les en hébreu, on a des façons de construire, et c'est une façon de dire le verbe est en action très très intense. Et donc le verbe planer, ce serait planer comme un oiseau, mais ça pourrait être aussi vibrer, trembler. Donc c'est quelque chose qui est au-dessus de la surface de l'eau, qui vibre et qui tremble. Voilà, ça c'est pour la partie de la Genèse. Après, il y a l'eau et l'émergence de la vie. Donc, c'est le psaume 104, 29 à 30. Tu dérobes ta face, ils sont dans l'épouvante, tu leur retires le souffle, ils expirent et retombent dans leur poussière. Tu renvoies ton souffle, ils renaissent et tu renouvelles la face de la terre. Alors c'est un psaume qui est lu dans les synagogues chaque début de mois. Quand le souffle de Dieu est là, la vie revient. Le mot traduit par « ils renaissent » a pour racine un verbe qui est réservé uniquement à Elohim. Donc Elohim, c'est Dieu, mais Dieu sous sa forme de plusieurs faces. Dieu a plusieurs faces qu'il peut nous présenter. Donc ce mot n'est exclusivement réservé à Dieu, hein, et qui veut dire créer. Donc il va créer, c'est le renouvellement de la face de la terre, mais c'est aussi le renouvellement de la face d'Adam. C'est une recréation. Bon, ça c'est pour les Juifs, hein. Voilà. Donc les Juifs considèrent que le sommeil de la nuit est une petite mort et qui amène des souillures pendant la nuit. Donc en se réveillant, la première chose qu'ils font, c'est des ablutions, l'ablution des mains, de façon à se purifier. Donc c'est toujours une histoire d'eau. Mais voyez, l'eau, elle a différents aspects dans la vie. Alors, on peut aussi parler de Israël, le pays d'eau. Donc là, c'est dans Deutéronome 11, 10 à 11, versets 10 à 11. Car le pays où tu vas pour le conquérir ne ressemble point au pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis. Là, tu tu devais semer ta graine et humecter, l'irriguer à l'aide du pied comme un jardin potager. Mais le pays que vous allez conquérir est un pays de montagnes et de vallées, abreuvées par les pluies du ciel. Donc nous avons ici une différence fondamentale entre l'Égypte, qui représente les nations de l'époque, et Israël. Donc pour l'Égypte, c'était pour irriguer les champs, etc. On a épuisé l'eau du Nil pour arroser. D'ailleurs, l'Égypte n'est fertile qu'au niveau du Nil. Par contre, pour Israël, c'est les eaux d'en haut qui vont fertiliser la terre. Mais ça a un sens aussi spirituel. Il faut le voir dans un sens spirituel. Alors, Israël a pour rôle de relier les deux aspects, c'est-à-dire l'esprit et l'eau de la terre. L'esprit qui vient d'en haut. Donc, Israël est donc un pays d'eau, du ciel, qui représente la bénédiction. Alors, l'aspect bénédiction, je vais vous le donner un exemple. Dans Marc chapitre 1, versets 9 à 12, et donc ça, on l'a exprimé lors de mon baptême. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Et je voudrais, par ces versets, c'est surtout le verset 10, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Il faut imaginer que vous êtes dans le désert. Jean le Baptiste est en train de baptiser Jésus. On est dans un endroit sec et désert. Il n'y a rien de pousse. On baptise Jésus et les cieux s'ouvrent. Eh bien, il pleut. Il commence à pleuvoir. Et c'est une bénédiction parce que quand il pleut sur le désert, c'est la certitude dans quelques jours que on a de l'herbe, des fleurs qui vont pousser. Et donc c'est une bénédiction pour les hommes. Bénédiction, une promesse et une réalité. En même temps, Jésus est déclaré bien-aimé par Dieu. Alors, il est à remarquer que les temps messianiques, on y approche, on ne sait pas quand bien sûr, mais chaque jour qui avance, on approche vers les temps messianiques. L'absence de pluie sera une punition. Dans Zacharie 14, de 17 à 18, « Et celles des familles de la terre qui n'iraient pas à Jérusalem pour se prosterner devant leur roi, l'Éternel Tsevao, c'est-à-dire l'Éternel des armées, celle-là ne sera pas favorisée par la pluie. Que si la famille d'Égypte n'y monte pas pour faire ce pèlerinage, elle non plus, elle ne sera pas indemne, mais elle subira le fléau dont l'Éternel frappera les autres peuples pour n'avoir pas fait le pèlerinage des fêtes des tentes. » Donc ça nous adresse maintenant à tous, puisque maintenant les nations sont là. Quand le temps messianique sera arrivé, il faudra aller se présenter à Jérusalem. Sinon, on n'aura pas d'eau. C'est écrit dans la Bible. Alors ça peut être, je pense, hein, ça c'est mon interprétation, ça peut être aussi spirituel, c'est-à-dire qu'on ne sera pas béni. Alors, l'eau avec l'alliance d'Abraham, donc c'est avant qu'Abraham ne devienne Abraham, avec Avimélec. Donc c'est dans Genèse 21, verset 27. Abraham prit du menu et du gros bétail qu'il remit à Avimélec, et ils conclurent mutuellement une alliance. Et un deuxième verset, dans Genèse 21, à 30 à 32, il répondit, « C'est que tu dois recevoir de ma main sept brebis, c'est Abraham qui parle, comme témoignage que j'ai creusé ce puits, et ainsi appellera-t-on cet endroit Beersheba. Car là, ils jugèrent l'un et l'autre lorsqu'ils eurent contracté l'alliance à Beersheba. Alors, il faut savoir qu'Abimélec et Abraham étaient ennemis. C'était vraiment très très sévère, ça se frottait fort. Hein. Nous observons qu'à ce moment-là, il y a eu une paix près d'un puits. Et on l'appelle le puits de la paix. Parce que l'esprit est sur les eaux naturelles. Alors je reviens sur ce que j'ai dit initialement dans la Genèse. L'esprit flottait, hein, vibrait au-dessus des eaux. C'est encore le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que l'esprit est au-dessus des eaux naturelles. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup de noces qui se sont célébrées autour des puits. Alors, quelques exemples. Ismaël fut sauvé par un puits, et Dieu fit une promesse pour sa descendance. C'est près d'un puits qu'Ézéchiel rencontra Rebecca. C'est aussi près d'un puits que Moïse rencontra son épouse et son beau-père. Et c'est bien entendu aussi avec Yeshua, avec Jésus, qui a une rencontre avec la Samaritaine au pied du puits. Alors, je vais lire le chapitre. Alors Jean 4, verset 10. « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Encore un aspect de l'eau qui est différente. Donc l'eau est intimement liée à la vie de la purification. L'eau est associée à l'esprit de Dieu. On ne souille jamais l'eau, car l'eau symbolise la Torah. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie, c'est l'eau. Alors, une petite histoire. Donc, c'est une personne qui demande à son pasteur que, voilà, je vais tous les jours... Je suis en train de prier, je prie, mais je ne retiens rien de l'écriture. Rien. J'ai essayé plusieurs fois, mais je ne retiens pas la parole. Et son pasteur m'a dit, écoute, c'est pas grave. Ce que je vais te demander, fais-le. Voilà, tu as un panier d'osier, je te demande d'aller me chercher de l'eau dans la rivière à côté. Et la personne vient ramener son panier d'osier, mais il est vide. Ça soigne d'eau, bien sûr. Retourne. Et trois fois comme ça. Elle revient, mais ça sert à rien. Mais oui, ça sert à rien. Mais regarde ton panier, il est propre. Ben, la parole de Dieu, même si vous la retenez pas, elle vous nettoie. Lisez la parole de Dieu. Elle vous nettoie de l'intérieur petit à petit. Soyez ce panier d'osier. Alors l'eau, l'hospitalité, la reconnaissance. Donc dans Deutéronome 23, chapitre 5, je prends un tout petit verset. « Parce qu'ils ne vous ont pas offert le pain et l'eau à votre passage au sortir de l'Égypte. » Ça concerne donc Israël qui sort de l'Égypte et qui rencontre des Moabites et qui leur demande à boire, à manger, l'hospitalité. Et les Moabites leur refusent ça. Et donc ils sont... Voilà, c'est quand même quelque chose de difficile. Donc, normalement, les Moabites auraient dû avoir une hospitalité. C'est important là-bas. C'est très important. D'autant plus qu'il y a aussi un manque de reconnaissance de la part des Moabites, puisque c'est grâce à Abraham et aussi à l'histoire de Lot qui a permis d'avoir... Lot a été sauvé. Il est sorti de Sodome et il fut protégé par une ville épargnée grâce à Abraham, Tsoar. Et l'eau symbolise l'hospitalité et la gratitude. Donc les Moabites, ce jour-là, n'ont pas honoré l'hospitalité et la gratitude, n'ont reconnu rien. Voilà. Donc l'eau, l'hospitalité, la reconnaissance. La justice est une eau puissante. On va voir ça. Donc dans Amos 5, chapitre 5, verset 24. Mais le bon droit jaillisse comme l'eau, la justice comme un torrent qui ne tarit point. Donc en Israël, l'ensemble des juges s'appelle Elohim. Donc ça, c'est dans, on peut le voir dans les psaumes. Elohim, ça peut être aussi l'ensemble des juges, et, puisqu'il y a plusieurs faces. Voilà. Et donc, la justice repose sur deux choses. La loi, c'est-à-dire le bon droit, et l'indulgence, la miséricorde, les circonstances atténuantes. La générosité, c'est la justice. Donc un juge, ne devrait pas voir le visage de l'accusé pour ne pas être influencé. La justice n'est pas aveugle, mais elle a les yeux bandés. Alors on remarque là que la justice est comparée à de l'eau jaillissante. Je relis le verset. Mais que le bon droit jaillisse comme de l'eau, que la justice comme un torrent qui ne tarit point. Voilà. La Torah est gratuite. Donc la Torah, c'est, pour nous, c'est la Bible, une partie de la Bible. Les paroles de la Torah sont gratuites à l'humanité. Là, c'est un verset d'Ésaïe. Ah, vous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Vous qui n'avez point d'argent, venez, approvisionnez-vous et mangez gratuitement, sans rétribution. Venez, fournissez-vous en vin et de lait. Donc, c'était dans Ésaïe 55, verset 1. À l'époque de Yeshua, c'est-à-dire Jésus, il y avait deux écoles. Deux écoles pharisiennes. Donc elles étaient concurrentes, elles faisaient un petit peu, assez moins la meilleure. Et il y avait l'école Ben Chaim et Beth Hillel. La première disait qu'il fallait payer pour être enseigné, pour être enseigné sur la Torah. Et la deuxième, elle enseignait gratuitement. Elle était en accord complète avec la parole de Dieu. La Torah aussi, c'est le plus grand des trésors. Alors, parole, la Torah, c'est toujours la parole de Dieu, donc l'eau, hein, c'est toujours relatif à l'eau. Alors, ça, c'est le psaume 119, verset 72. Plus précieux est pour moi l'enseignement de ta bouche que des morceaux de pièces d'or et d'argent. On ne peut pas vivre sans parole de Dieu sur terre. L'or est un trésor, mais il ne s'attache qu'au bien matériel. Au jour de notre mort, nous n'emporterons rien de cela. Alors, il est communément admis qu'on ne peut pas vivre plus de 3 jours sans eau. C'est pourquoi en Israël, on lit la parole au moins 3 fois dans la semaine, pour pas manquer d'eau spirituelle. Donc, on lit le lundi, qui est le deuxième jour de la semaine, parce que le dimanche, c'est le premier jour. On lit la Bible aussi, enfin, la Torah, le jeudi et le samedi. Alors, ça, c'est un truc à Daniel, il met toujours des petites références un peu drôles. Le mot « or » se dit Zahav. Et c'est 3 petits mots. 3 lettres. La première lettre, c'est la deuxième. Il faut que j'explique quand même. Chaque lettre de l'alphabet hébraïque a un poids numérique. Comme par exemple, si on veut décider de dire j'ai 12 vaches, eh ben on va prendre les 2 lettres de l'alphabet, le 1 et le 2, l'un derrière l'autre, ça fera 1 et 2, 12. Vous voyez ? Eh bien, là, c'est un peu ce que veut dire Daniel. Donc, le mot or, la première lettre, elle a le poids 2. Donc, le deuxième jour, ce qui correspond donc au lundi. Ensuite, c'est le poids 5 qui correspond donc à jeudi. Et le poids, et la dernière lettre, 7, qui correspond à, donc à samedi. C'est drôle. Alors, O égale humilité. Ouais, il faut être humble. Et on parle des enseignants qui disent, par exemple, on a des versets comme ça, hein, je vais vous donner le verset pour vous donner l'explication. Vous qui n'avez point d'argent, j'en ai déjà parlé, hein, venez, approvisionnez-vous. Venez, fournissez-vous en vin et de lait. Ça, c'est Isaïe. C'est pour t'enseigner que ces trois liquides, alors l'eau, le vin et puis le lait, ces trois liquides, on va les retrouver dans un vase. Donc, quelque chose qui a peu de valeur. Et ce que les sages d'Israël veulent nous dire, c'est qu'à travers ces vases de peu de valeur, on est choisi, on est humble. Et on ne peut être choisi par Dieu que si on est humble par rapport à la parole de Dieu. Cela nous oblige donc à l'humilité par rapport à la parole. Le retrait des eaux, c'est l'émergence de la terre. Dans Genèse 1, versets 9 à 10, Dieu dit que les eaux répandues sous le ciel se réunissent en un seul point et que le sol apparaisse. Cela s'accomplit. Dieu nomma le sol la terre et l'agglomération des eaux, il la nomma les mers, et Dieu considéra que c'était bien. Donc la terre vient du retrait de l'eau, c'est-à-dire qu'elle laisse la place à la terre en se retirant. Donc il y a aussi là une image pour nous d'humilité. Les eaux se retirent, ça permet à la terre de venir et de laisser naître quelque chose de nouveau. Donc quand l'eau se concentre, c'est aussi une espérance, parce qu'elle laisse la place. On peut aussi faire un parallèle pour les enseignants, par exemple. De laisser, une fois qu'ils ont enseigné leurs élèves, de laisser la place à leurs élèves, de façon à ce qu'eux-mêmes grandissent. C'est pareil pour les parents. On élève nos enfants, et à un moment donné, on doit lâcher les rênes. Nos enfants grandissent uniquement si on leur laisse l'opportunité de grandir. Alors un monde meilleur. C'est Ésaïe, chapitre 11, versets 9 à 10. Plus de méfaits, plus de violence sur toute ma sainte montagne, car la terre sera pleine de connaissances de Dieu, comme l'on abonde dans le lit des mers. En ce jour-là, il y aura un rejeton de Jessé, qui se redressera comme une bannière des peuples, des nations. Les nations se tourneront vers lui et sa résidence sera entourée de gloire. Donc je reparle des temps messianiques qui approchent. Et donc la Torah nous enseigne que la connaissance de Dieu sera partout comme l'eau dans le lit des mers. Le Messie aura la gloire et règnera sur le monde. La violence de ce monde n'est pas que la violence physique. C'est aussi l'absence d'écoute, de dialogue, d'amour, de respect. C'est l'indifférence à l'autre. Il y a un mot en hébreu qui exprime ça et qui se dit Hamas. Hamas. Ça vous dit quelque chose ? Hamas, ramasse. Et cela veut dire opprimer, violence, violer, rejeter. Eh bien, bientôt le roi va venir. Voilà. En conclusion, donc le symbole de l'eau, du ciel, est absolument extraordinaire, merveilleux. La vie, l'alliance, l'hospitalité, et la gratuité, la justice, l'équité, l'humilité, la connaissance. Voilà, tout ça. La bénédiction. La Torah et la parole de Dieu est gratuite. Et sans elle, nous mourrons. C'est pourquoi on doit la lire. On doit lire la Bible. Quand le Messie viendra, alors l'Esprit ne planera plus sur les eaux. Non, elle fusionnera avec l'eau. Et la Torah sera dans nos cœurs. Et c'est écrit dans la Bible que quand les temps viendront, nous n'aurons plus la loi, elle sera inscrite dans nos cœurs. Dans Jérémie 31, versets 33 à 34, « Mais voici quelle alliance je conclurai avec la maison d'Israël. » Et moi j'ai envie d'ajouter « avec les branches rapportées. » Au terme de cette époque, dit l'Éternel, « je ferai pénétrer la loi en eux. » C'est dans leur cœur, que j'inscrirai, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et ils n'auront plus besoin, ni les uns ni les autres, de s'instruire mutuellement en disant « Reconnaissez l'Éternel, car tous, ils me connaîtront du plus petit au plus grand. » Quand j'aurai pardonné leurs fautes et effacé jusqu'au souvenir de leurs péchés. Voilà. Ben, soyez bénis, mon message est terminé. On peut rajouter, si vous voulez, une chose dans le message, c'est qu'à un moment donné, je parle de que la Torah ne peut pas être souillée, que l'eau ne peut pas être souillée. Or, aujourd'hui, quand on regarde l'état de l'eau physique, de l'eau naturelle, qu'est-ce que nous en faisons ? C'est une pollution des mers. On parle d'un continent nouveau qui est formé de plastique, désagrégé, mais dont les poissons se nourrissent et en meurent. Et quand on regarde nos eaux naturelles, elles sont polluées, on est obligé de les purifier. Eh bien, Dieu a un projet par rapport à ça. Donc il faut que je le retrouve. Alors. C'était dans un message précédemment sur Yerushalayim, c'est-à-dire sur Jérusalem. Et on parle de Jérusalem avec quelque chose qui va se passer dans les temps futurs, au moment de le retour de Jésus. Alors, où est-ce qu'il est ? J'aurais dû surligner. Bon, c'est pas grave. Vous connaissez peut-être, hein, on va le dire comme ça. À Jérusalem, à un moment donné, il va y avoir un rocher qui va s'ouvrir. Et de ce rocher va s'écouler de l'eau. Cette eau va se répandre sur deux directions. Et une va aller se répandre dans le Jourdain. Et quand cette eau atteindra le Jourdain, puis ensuite la mer morte, les eaux seront purifiées, elles seront saines. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait des hommes de l'époque de Jésus qui se sont mis à Qumran et qui attendaient justement cette eau qui devait descendre de Jérusalem. Et ils étaient sûrs que ça allait arriver maintenant et ils attendent cette eau. Cette eau qui va s'étendre, qui va se sortir de Jérusalem, pour moi, c'est une purification des hommes, des esprits, des cœurs, mais aussi physiquement, quand cette eau rejoindra les eaux polluées, purifiera les eaux. C'est écrit. Alors on peut le voir de deux façons différentes, spirituelles, mais aussi on peut voir les choses. Ça, c'est les juifs qui parlent comme ça. On peut voir, ça peut être pris au premier degré, à savoir que vraiment ces eaux vont purifier les eaux qui sont souillées. Voilà, amen. Je vous bénis tous. Voilà, je vais vous faire une petite prière. Ma Seigneur Jésus. Voilà. On voit notre petite église de Wavrin. Mais voilà, c'est ton joyau, Seigneur. Et on fait ce que tu veux. Voilà, guide tes enfants qui puissent grandir dans ta foi, dans la foi. Voilà, Seigneur Dieu. C'est une prière toute simple, Seigneur. Viens, viens nous guérir des cœurs, viens guérir, viens par ton eau, par la Torah, par la Bible, par ta parole. Tu viens purifier nos cœurs. Voilà. Aujourd'hui, c'était la parole de Dieu, l'eau qui symbolise ta parole, la vie. Eh bien, Seigneur, je te demande que cette eau vive, que la parole vienne dans nos cœurs et s'inscrive dans nos cœurs. Amen.